Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
Ben bonsoir à tous et à toutes. Je suis surprise qu'on est un petit peu en avance, du coup. Non, ça va?
Ben bon. Non.
Ben moi, j'ai 19h59 et 39 secondes.
Ah oui.
Ah, bah ben c'est l'écran, alors, qui donne pas la bonne.
L'assistant Boris nous montre 20h. Excusez-nous, monsieur.
Voilà. Donc, Boris est ici, on l'a bien compris, avec Bernard, derrière leur vitrine.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
L'exposition.
Bonsoir à notre invité.
Mais bonsoir.
Bonsoir.
Boris est revenu de New York.
Voilà, Boris.
Enchanté.
Il y a des gens qui ont une vie difficile. Hein.
Donc Laurence est à mes côtés. Merci Laurence d'être avec moi.
Bonsoir.
Pour cette émission du 9 décembre 2015 après Jésus-Christ. Et donc, comme vous l'avez compris...
Très belle transition pour Pasolini avec Jésus-Christ.
Il précise toujours au cas où.
C'est oui, on sait jamais. Voilà. Nous avons invité, nous avons convié Luc Hernandez, qui est déjà venu, nous connaissons déjà, qui est rédacteur en chef du magazine, du mensuel Exit.
Absolument. Mensuel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Laurent, Gérald, Boris, tout le monde.
Et pourquoi j'entends plus rien? Montez le son, s'il vous plaît. Alors, vous aviez compris qu'aujourd'hui, l'émission est une spéciale Pier Paolo Pasolini. Alors, pourquoi j'ai voulu faire ça? C'est parce que c'est 40 ans qu'il est mort. C'était
oui.
en 1975.
Eh ben,
après Jésus-Christ. Hein.
Après Jésus-Christ aussi. C'était dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975.
Absolument.
Il a été assassiné sur une plage d'Ostie, près de Rome. Voilà. Alors, moi, j'ai pensé, et je ne suis pas le seul à le faire, que, puisqu'il y a quand même des événements, de l'événementiel en France autour de cet anniversaire, entre guillemets, si on peut dire, triste anniversaire. Mmh. La France, qui est quand même le pays qui est certainement le plus intéressé, si c'est le plus intéressé à Pasolini, après l'Italie, je dirais. L'Italie étant évidemment concernée en premier chef, en premier lieu, puisque Pier Paolo Pasolini est complètement un homme de son époque, qui de son époque, c'était en Italie, la péninsule italienne. Lui, il a vécu dans des périodes historiques importantes de l'Italie, puisqu'il est né à Bologne en 1922, l'année même où Mussolini a pris le pouvoir en Italie. Donc il a eu une enfance fasciste, on peut le dire, contre son gré, évidemment. À l'époque, en Italie, comme dans tous les régimes totalitaires, les enfants étaient un petit peu soumis. Mmh. Voilà, ils devaient porter le petit costume et puis chanter des chansons à la gloire de Mussolini, etc., etc. Il a eu un frère, Guido.
Certains s'appelaient Benito, d'ailleurs.
Et voilà, tout à fait. Mmh. Guido, son frère, qui était résistant, par contre, qui est décédé, qui est mort, assassiné dans le maquis du Frioul. Alors, pendant très longtemps, la légende a entretenu qu'il avait été assassiné par les fascistes. En réalité, on sait que ce sont des factions... communistes, enfin, communistes. Pas des factions communistes, factions de la résistance qui luttaient entre elles pour l'après-Mussolini et que certaines, parfois, s'affrontaient littéralement armes à la main et qu'il est mort dans une de ces confrontations, en fait, entre partisans. Sa mère était institutrice et son père était, lui, officier de l'armée. Un père absent, on va dire, et puis une mère présente.
Emprisonné pour dette de jeu, si je me
souviens. Emprisonné pour dette de jeu. Ben déjà, il voyageait beaucoup parce que son père était muté d'un endroit à un autre. Je sais qu'il a été en Afrique trop longtemps, son père, hein, dans les colonies italiennes de l'époque, puisque Mussolini voulait reconstruire, faire de l'Italie un empire colonial. Voilà. Et puis, Pasolini a beaucoup vécu aux côtés de sa mère. Il en parle souvent de sa mère. Il dit qu'elle a été déterminante dans sa vie, quoi, d'adulte. Sa mère, qui était institutrice, lui-même, donc, a étudié à Bologne, là où il est né, parce que lorsque sa mère était institutrice, elle avait été mutée dans le Frioul, donc dans des régions montagneuses du nord de l'Italie, très reculées, on dira. Mais Pasolini est revenu plus tard à Bologne en tant qu'étudiant. Il a étudié l'art, hein, à la base, il a étudié l'histoire de l'art. Pasolini, donc, qui n'était pas un homme solitaire non plus, on l'a souvent décrit comme un solitaire. En réalité, c'est quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait les gens, qui aimait le foot aussi, qui a de tout petit joué au football. Même sur les lieux de tournage de ses films, etc., tous les jours, il s'entraînait, il allait jouer au foot. C'était un besoin impératif pour lui de taper dans le ballon.
C'est un point commun avec toi, alors. Fan
oui,
de foot.
Sauf que je ne joue pas au foot. Puis lui, t'es avant-centre, et moi, avant-centre, jamais été très bon.
Donc, t'étais quoi, goal ?
Arrière-gauche.
Non, moi j'étais
arbitre.
Ballon. Voilà. Alors donc, Pasolini a été en contact avec la paysannerie du Frioul, le dialecte notamment, puisque l'Italie de l'époque était une Italie qui n'était pas unifiée par sa langue, en tout cas qui déjà était à peine unifiée depuis peu de temps, et n'était pas unifiée par sa langue. Et lui, il s'est intéressé très vite, très jeune, au dialecte du Frioul, qui était un des multiples dialectes donc, qui était parlé dans toute la péninsule italienne. Un Italien du Nord ne comprenait pas un Napolitain, par exemple, à l'époque. Il ne parlait pas la même langue, l'Italie.
Ça n'a pas changé, ça.
Si, maintenant, quand même, l'Italien est quand même devenu, l'Italien de Florence, d'ailleurs, est devenu quand même une langue commune à l'Italie. Hein. C'est beaucoup la télévision, d'ailleurs, qui a permis à l'Italien de sa progression. Mais à l'époque, dans les campagnes, et même dans beaucoup de régions, on parlait le dialecte avant de parler italien. Mmh. Et lui, donc, s'est intéressé au dialecte, il s'est intéressé à la paysannerie du coin, et il a déjà fondé, quand il était jeune, donc, dans le Frioul, une communauté, une petite communauté de poètes en langue dialectale. Ensuite, il est devenu étudiant, je fais ça bio rapide, après je te...
Mais c'est très bien.
Voilà. Il est devenu étudiant, il est devenu enseignant, pardon, et il s'est trouvé qu'en tant qu'enseignant, il a été dénoncé pour rapport sexuel avec deux mineurs, deux adolescents.
Je n'y crois pas.
C'est en 1949. C'était en 1949.
Pas lui.
Il était donc retourné dans le Frioul pour enseigner, et du coup, il a été dénoncé, il a été obligé de quitter son poste et de s'enfuir littéralement à Rome, où sa mère l'a suivi. Sa mère a démissionné de son poste d'institutrice dans le Frioul et l'a suivie. Elle est devenue femme de ménage pour pouvoir subvenir aux besoins, voilà, de la petite famille. Alors, c'est à Rome qu'il a rencontré, évidemment.
Donc, excuse-moi, je te coupe, il était très fusionnel avec sa mère, alors.
Ah oui, jusqu'au bout. Hein.
Ah oui.
Tout à fait. Et c'est à Rome. Donc, Rome, c'était évidemment, dans les années 50, c'était devenu une des mecs du cinéma européen, avec les studios de Cinecittà, eux-mêmes fondés par Mussolini, d'ailleurs. Mais en tout cas, l'après-guerre avait fait de Cinecittà les plus grands studios de cinéma d'Europe, qui se voulait un petit peu le pendant du Hollywood. C'est le Hollywood européen. Il a rencontré énormément de monde. Rome était une ville en pleine ébullition intellectuelle à l'époque, donc dans le cinéma. Il a rencontré Attilio Bertolucci, notamment le fils de Bernardo. Il a rencontré les plus grands noms du cinéma de l'époque, mais aussi des écrivains comme Alberto Moravia. Il était ami avec Alberto Moravia, qui est une des pointures de la littérature italienne contemporaine. Il a connu des gens de médias comme Giorgio Bassani, qui était un des directeurs de la RAI à l'époque, qui était aussi un homme de lettres, etc. etc. Donc, Pasolini l'a baigné là-dedans, dans cette ambiance, est arrivé donc à Rome suite à ce comment dire, cette affaire de mœurs.
Il a aussi le poursuivra toute sa vie. Hein.
Voilà, tout à fait. Et lui, donc, ce qui est intéressant, Pasolini, je pense que tu ne vas pas me dire le contraire, Luc, Pasolini, c'est quelqu'un qui s'est inscrit complètement dans son époque. On l'a dit, petit, c'était le petit Mussolinien contre son gré, évidemment. Mmh. Son frère Guido, mort dans la Résistance. Ensuite, lui, il a vécu ses premières années, ses premiers émois adolescents, etc., à une époque où l'Italie se transformait d'un pays agraire, d'un pays profondément rural dans l'ensemble, on va dire. C'est un pays qui était en train de se transformer par l'industrialisation. On a parlé du miracle économique italien de l'après-guerre, où l'Italie s'est développée surtout dans la partie nord de façon considérable au niveau industriel, et qui a transformé les structures même de la société italienne, que Pasolini a toujours eu beaucoup de mal à vivre cette transformation, puisque c'était aller vers un pays néo-capitaliste, qu'il appelait néo-capitaliste bourgeois.
Ah hein, oui, c'était sa haine absolue.
Donc lui, il a été un petit peu, sa formation intellectuelle est un peu liée aussi, évidemment, à l'évolution de l'Italie de son époque. Et puis aussi la foi, parce qu'on va en parler de la foi de Pasolini. Il est né dans des petits villages, enfin il a vécu dans les petits villages où la foi était très présente, une foi simple, une foi de paysan. Et lui, je pense qu'il avait quand même, à sa manière, il était très italien finalement, parce qu'il était, il avait un rapport à Dieu obligatoirement, très différent de celui que pouvait peut-être proposer l'Église, qui était très intime. Hein. Et Pasolini a toujours dit « je ne suis pas athée hein. ». Il n'a jamais dit qu'il était athée.
Ah bah pas du tout. Ouais.
Quand on le disait, on lui disait « vous êtes un blasphémateur », lui il disait…
Bah, il était condamné même pour blasphémer.
Voilà. Il lui disait « mais pour blasphémer, pour profiter des blasphèmes, il faut être soi-même croyant. Ouais. Quelqu'un qui blasphème croit, c'est pas quelqu'un qui… Un incroyant ne blasphème pas. » Et on rappelait d'ailleurs, on rappellera peut-être tout à l'heure encore, l'évangile selon saint Matthieu, un de ses… premier film, un de ses plus grands films aussi, a reçu le prix de l'Office catholique du cinéma. Il avait mis dans ce film tout ce que...
Le prix œcuménique. C'est quelqu'un qui avait une foi fondamentale.
Il n'était pas athée, mais il était marxiste. Hein, voilà. Parce que aussi, en ce sens-là, il s'est inscrit...
C'était vraiment l'homme de son époque.
C'était vraiment l'homme de son époque, puisqu'on disait qu'en Italie, on était soit catholique après-guerre, soit on était communiste. Voilà. Il n'y avait pas d'autre choix. C'est faire fi de la démocratie chrétienne quand même qui avait le pouvoir à l'époque malgré tout. En tout cas, il se définissait marxiste, mais il disait qu'il avait adhéré au PC, au PCI, au Parti communiste italien, un peu malgré lui, par défaut, parce qu'il n'y avait rien d'autre qui pouvait se rapprocher le plus de ce que lui considérait dans sa pensée politique. Voilà. Et il faut savoir qu'il a adhéré en 47 et en 49, encore une fois, ou un peu plus tard, je ne sais plus exactement les dates. Il est resté 2-3 ans, pas plus, au Parti communiste, puisqu'il en a été expulsé pour indignité morale. Voilà.
C'est un trublion.
Mais toute sa vie, il a eu des problèmes avec ça. Il a eu procès sur procès. Ça a commencé...
Avec la religion, avec les communistes.
Ouais. Il a toujours été...
Mais qu'est-ce qui s'est passé, là, du coup?
Eh bien, parce qu'il avait des amours masculines, déjà, pour commencer.
Encore un quiproquo.
Et puis, il avait aussi un goût pour la jeunesse, on dira.
Donc c'est toujours le même thème.
Voilà.
Jusqu'au bout, quand il mourra assassiné, ce sera avec un mineur.
Et en fait, le fait même d'avoir vécu avec la paysannerie du Frioul, avec les jeunes gars du Frioul, ça a certainement éveillé ça.
Il est resté très terrien.
Voilà, mais on le voit dans ses films, il fait jouer énormément de la paysannerie. Mais les femmes aussi jouent. Hein, il aimait beaucoup les femmes, Pasolini aussi. Mais il avait ce côté admirateur. Pour lui, la paysannerie italienne, enfin frioulane, le paysan. Et plus tard, par extension, l'habitant des banlieues de Rome, le jeune homme habitant des banlieues de Rome, c'était un peu comme le flambeau repris à travers les siècles de gestes qui se perpétuaient depuis l'Antiquité. Pour lui, il avait une vision très extatique de ces jeunes hommes, très antiques, très païennes finalement, quelque part.
C'est très bien présenté tout ça.
Ébloui.
Justement. D'ailleurs, il disait aussi qu'on dit que l'œuvre de Pasolini, c'est le croisement de Freud, de Karl Marx et de Jésus-Christ. Hein, c'est souvent on a dit ça.
Pour les dynamités, alors.
Alors, ce qu'on va faire, justement, concernant l'engagement de Pasolini, on va écouter déjà sa voix, qui était très particulière aussi. On va l'écouter en français, pas en italien. C'est des interviews qu'il a données pour la télévision ou la radio française. Et en l'occurrence, on va écouter là Pasolini qui parle justement de son engagement politique.
Vous m'avez souvent dit, en parlant d'un point de vue marxiste, vous m'avez dit je suis marxiste. Vous n'avez jamais dit je suis communiste. Est-ce que vous faites une différence?
Oui, la différence c'est que je n'ai pas, comme dit, inscrit au Parti communiste. Je n'aime pas d'être indépendant. Je déteste l'intellectuel qui dit « je suis indépendant ». Mais je suis obligé de le dire. Alors j'accepte l'idéologie marxiste dans la diagnose de la réalité sociale et en grande partie dans les perspectives l'idée de solution des problèmes sociaux. Ma gêne, comme dit, condivido.
Je ne partage.
Je ne partage pas complètement la politique du Parti communiste italien, aussi soviétique, etc.
Pluriel gay.
Voilà.
C'est qui qui menait l'entretien?
Ça, c'était pour une émission de télévision. Je ne sais plus quelle émission. C'est l'émission 1966. Mmh. Une émission de télévision de l'RTF à l'époque. Ben oui, c'était le RTF encore à l'époque. Il faut savoir que Pasolini a souvent présenté, enfin, est déjà venu à Cannes plusieurs fois pour présenter des films par les Français.
Dont l'Évangile selon saint Matthieu.
Et puis, il a donné beaucoup d'interviews en France, à la radio, à la télévision, parce que, comme je disais, en dehors de l'Italie, la France est un des pays qui est le plus passionné pour Pasolini, on dira. Alors Pasolini...
C'est notre côté révolutionnaire.
Voilà, tout à fait. À l'époque, Pasolini taxé de conservatisme, par contre. Alors, c'est intéressant parce qu'on pourrait penser qu'il était très... Et non, il avait un côté conservateur, puisque les mouvements féministes, par exemple, ne l'aimaient pas trop. Il était contre l'avortement, il était contre la contraception... comment expliquer ça, Luc?
Ah ouais, on commence très fort. Alors, je prétends pas tout expliquer.
Non, mais le souci, c'est que c'est antinomique par rapport au personnage tel que je viens de
présenter. Ah bah, tout est antinomique. Pasolini, c'est un penseur impur, déjà. Il n'est jamais qu'une seule chose. Il n'est jamais que communiste, que homosexuel, que chrétien, ou que... Tout ce qui touche, c'est pour ça qu'il était sulfureux. C'est-à-dire qu'il est, il a besoin de le personnaliser, il a besoin de le mettre en doute. Dans ce sens-là, c'est vraiment un penseur positif permanent. C'est quelqu'un qui se remet en question tout le temps. Donc il est toujours ambivalent, il est toujours ambigu, il est toujours complexe sur toutes les questions. Parce qu'effectivement, il était très attaché au bon sens paysan, disons, de ses origines, qu'on pourrait identifier comme quelque chose de très conservateur, mais par ailleurs, il était extrêmement révolutionnaire, progressiste. Par contre, il haïssait, je pense, la bien-pensance du progressisme. Enfin, quand le progressisme devient un nouveau conformisme, ça ne l'intéresse plus. Il faut toujours que ça reste mouvant, il faut toujours que ça reste en discussion. Donc, je pense qu'il était toujours entre ces deux feux. C'est-à-dire que il y avait toujours une dimension spirituelle chez lui très forte. Sa position contre l'avortement, elle vient de là. Hein, elle vient du rêve de l'être avant la naissance, comme l'être après la mort. Elle vient vraiment d'une dimension spirituelle. Elle vient pas du tout d'une dimension normative, anti-femme, pas du tout. Alors après, je comprends qu'elle puisse mettre tout à fait en colère les féministes. Moi, je dis pas que je suis d'accord avec lui. Mais ce que je veux dire, c'est, voilà, sa pensée est toujours très libre, donc elle est toujours dérangeante. C'est ce qui fait qu'il tient jamais en place dans aucune communauté, hein, pas plus homosexuelle, communiste, que religieuse.
Est-ce que ses prises de position conservatrices, par exemple, ne pourraient-elles pas être liées à son dégoût de la société de consommation vers laquelle s'avançait l'Italie?
Oui. Bah, dans ta présentation, t'as très bien... Enfin, il est né avec le fascisme, et en fait, Pasolini, il est entre deux fascismes, pour lui, hein, dans son discours à lui. Quand on lit les écrits corsaires, qui sont ses derniers articles pour le Corriere della Sera, qui sont regroupés sous ce titre-là des dernières années, 74-75... Ce qui revient tout le temps, c'est sa haine de la société de consommation bourgeoise, etc., qui pour lui est un nouveau fascisme, c'est vraiment les termes qu'il emploie, et qui est un fascisme beaucoup plus insidieux, et pour lui pire que le premier fascisme. Donc il est entre deux révoltes, une révolte de sa naissance et une révolte de sa mort, puisque c'est au moment où il conteste ça qui sera assassiné quand même. Faut quand même imaginer, moi je veux quand même insister là-dessus, il y a quand même très peu d'artistes dans nos sociétés occidentales, n'est-ce pas, si policés, si tout ce qu'on veut, qui ont été assassinés pour leurs idées. Alors malheureusement, il y a Charlie maintenant depuis peu, mais par une organisation terroriste, disons, voilà. Mais là, cet assassinat, on pourra en reparler, il est commandité par la société italienne, policée, catholique, etc. Il n'est pas commandité par un diable extérieur, hein, ou intérieur. Donc, moi, je connais pas beaucoup, voire pas du tout, alors je sais pas, ça me vient peut-être pas à l'idée. Enfin, je connais peu de poètes, puisqu'ils sont en général, ils sont méprisés, parce que c'est un monde comme ça, de sensibilité, de... Voilà. C'était un poète tellement politique dans tout ce qu'il faisait, qu'on a voulu le tuer pour sa pensée, pour ce qu'il dérangeait dans cette société-là. Faut quand même imaginer ce que ça veut dire. Il y a 40 ans, c'est pas si vieux, hein.
Oui.
Donc, au cœur, en fait, c'est la société occidentale bien pensante a voulu tuer Pasolini. Ouais.
D'ailleurs,
et l'a tué.
C'était aussi un visionnaire au niveau politique, puisque on évoquait Pétrole, un roman que tu connais bien, Luc, puisque tu en as fait
oui.
Ta thèse.
Ouais.
Le roman posthume, hein.
Ah, c'est
inachevé.
C'est quelque chose.
On dit inachevé.
Oui, oui. Moi, je faisais sur le fragment à cause de ça justement, parce que c'est inachevé.
Et beaucoup disent dans Pétrole, il décrit une société italienne telle qu'elle va devenir en fait.
Oui,
il décrit une société où il y a des liens entre la politique, le pouvoir donc, et puis l'économie.
Et ça, des complots géopolitique dans Pétrole aussi.
Et certains disent qu'il avait une vision, il avait prévu la vision de l'Italie berlusconienne, par exemple.
Ah oui, oui, bah, c'est un grand visionnaire. Alors là, je veux dire, L'un, disons qu'on est dans une société, bon, je vais aller vite, enfin c'est pas complètement faux. On est dans une société qui, en développant un individualisme forcené de la société de consommation, c'est-à-dire je commence à penser à moi, alors ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être le chômeur qui cherche un travail, le chef d'entreprise qui veut plus de flexibilité, le religieux qui veut son culte, voilà, la liberté de son culte, etc. Bon, mais on est dans une société, là je parle du raisonnement de Pasolini, hein, qui dit que cet individualisme forcené que crée la société de consommation mène droit au fascisme. Bon, par exemple, nos chères élections de la semaine dernière, c'est pas complètement stupide comme argument. Alors, c'est un type de fascisme, hein, mais lui le considérait comme tel. C'est-à-dire que c'était une nouvelle aliénation de l'intérieur, et je pense que c'est ce côté visionnaire-là, c'est Berlusconi, c'est nos ambiguïtés françaises d'aujourd'hui qui dépassent largement le Front National, hein, d'ailleurs. Hein. Donc c'est certain que le Pasolini est d'une actualité brûlante. Je veux dire, il a laissé la contestation d'un monde qui est encore le nôtre.
Ouais.
Il a laissé en mourant la révolte et la contestation du monde qui est toujours le nôtre.
Alors, ce qui est impressionnant, finalement, c'est qu'il n'a pas été suivi, mais y compris par le parti, normalement, qui aurait dû être le plus proche de lui.
Ouais.
En fait, il s'est mis tout le monde à dos, on peut dire.
Ah bah toujours, oui, c'est la brebis galeuse absolue.
Ouais.
Parce
que dans sa dénonciation permanente de la société bourgeoise, il y avait quand même quelque chose qui gênait beaucoup, un peu partout. C'était aussi le rapport qu'il avait avec la sexualité, finalement. Tout était lié chez
lui. Encore une fois, tout était impur. Donc c'était un homme extrêmement courageux. Faut quand même imaginez le nombre de procès qu'il a dû supporter, enfin je veux dire du plus grave jusqu'au plus bénin. Moi, on parlait religion tout à l'heure, il y a un court métrage de Pasolini que j'adore qui s'appelle La Ricotta, qui est un film d'une demi-heure où c'est un acteur qui joue le Christ sur la croix et qui, pendant les pauses du tournage, c'est d'ailleurs Orson Welles qui joue le metteur en scène à l'intérieur du film, va manger son fromage à ricotta, on retrouve le bon sens paysan, voilà. Ce film qui est sur un twist des années 60 qui paraîtrait absolument inoffensif aujourd'hui a fait un scandale absolu. C'est-à-dire qu'on l'a traîné en procès pour blasphème, pour tout ce qu'on veut. Il a été traîné en procès, en intimidation, en menace, en tout ce que vous voulez, toute sa vie. Et malheureusement, sa mort indique que c'était pas complètement faux. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait bien, quelque chose. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont eu le courage de Pasolini. C'est pas un courage au sens de l'héroïsme. C'est pas quelqu'un qui jetait un discours tout fait à la face de la société. C'est un courage critique. C'est un courage de remettre en question tout le temps, y compris ses propres convictions à lui. Il n'a cessé de le faire dans son cinéma, dans ses écrits. C'est vraiment un artiste limite. Dès qu'il touche à quelque chose, il va au bout pour pouvoir à nouveau le contester et inventer quelque chose de nouveau. Alors forcément, dans les prises de position politiques, mais même dans ses prises de position esthétiques, hein, c'est aussi ses prises de position esthétiques qui faisaient scandale. Chez Pasolini aussi, ce qui est très fort, c'est que on l'imagine plus trop aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a plus vraiment d'équivalent aujourd'hui, mais c'est vraiment un politique poétique, quoi. Et un poétique, les deux vont ensemble. Aujourd'hui, on a une vision tellement éthérée de la poésie, qui par ailleurs peut être très belle quand elle est purement littéraire. Moi, j'ai pas de mépris pour ça. Hein. Mais chez Pasolini, il n'y a pas une posture politique qui laisserait de côté l'esthétisme, la poésie, etc., ou un refuge poétique qui laisserait de côté la société, le bon sens paysan, le peuple, etc. C'est en même temps. Alors, ça crée... Je pense que c'est ce qui crée scandale, justement. Mais ça crée autant par sa poésie que par ses prises de position. C'était pas un intellectuel au sens de la posture médiatique d'aujourd'hui. D'abord, il n'y avait pas les médias développés comme ça. Et ensuite, c'est pas quelque chose qui l'intéressait, ça. Ce qui l'intéressait, c'était de mettre en question les choses. La religion, c'était quelqu'un qui a toujours défendu une idée du sacré, mais qui lui est personnelle. Du sacré païenne, je sais pas comment on pourrait dire, mais toute la question de la religion traverse son œuvre.
Est-ce que aujourd'hui, s'il vivait aujourd'hui, il pourrait faire tout ce qu'il a fait à son époque? Est-ce qu'il aurait la même ribambelle de procès? Est-ce qu'il pourrait être autant critique?
Bah, une chose qui est sûre, c'est qu'il aurait pas pu faire la moitié de ses films. Alors au niveau artistique, en tout cas, il n'aurait pas trouvé à être produit.
Pour revenir à, au côté sacré, quand il a voulu parler du sacré, donc on a évoqué le film L'Évangile selon saint Matthieu, il a mis dans l'Évangile de saint Matthieu un Christ, il a présenté un Christ. Alors il n'y avait que des acteurs non professionnels hein, dans
oui,
ce
oui,
film.
Oui, voilà. Aussi, oui.
Et il a mis en avant un Christ qui était à la fois un Christ d'amour, mais aussi de révolte, de contestation, tout ce qu'il pouvait s'imaginer qui était le Christ. Et ça a tellement bien trouver son but, finalement, il a tellement atteint son but, comme on disait, il a quand même eu un des plus grands prix de l'Église catholique.
Oui, puis il y a des chrétiens qui ont reconnu la dimension spirituelle de ce film, et c'est la moindre des choses. Ouais. Après, on peut ne pas partager toutes les options de Pasolini, mais la dimension, mais c'est une dimension spirituelle au sens large, mais dans un sens très fort. Il termine le Décaméron, par exemple, qui est le premier volet de sa trilogie de la vie, donc qui est une trilogie d'hédonisme, beaucoup sur la sexualité, pas seulement, qui est une trilogie sur le plaisir, le désir, enfin tout ce qu'on veut, donc a priori anti-religieuse au possible. Mais non, lui, il le termine en disant « vaut mieux rêver sa vie ». Que la vivent parfois. Et le rêve, la religion, le surréalisme, l'irréel, tout ça, pour lui, ça participe d'une même personne. Il y a pas... C'est ce qui est très beau, moi, je trouve, chez Pasolini, je trouve toujours très émouvant, c'est que c'est un grand érudit, c'était un très bon élève, très lettré, il parlait français, il connaissait tous les dialectes, c'est un grand poète, tout ça, c'est absolument incontestable, et il avait besoin de jouer au foot tous les matins. C'était obligé. Quand il fait l'Évangile selon saint Matthieu, c'est un film avec une grande dimension spirituelle, mais Pasolini, c'est aussi quelqu'un qui a fait rentrer des visages au cinéma, des gueules cassées, des gueules pas normées, qui les a rendues belles, qui a voulu montrer la beauté hors de ces normes de société de consommation. C'était pas du tout l'homosexuel qui reniflait des plaquettes de chocolat ou... c'était pas du tout ça. Donc, alors il était aussi rejeté aussi pour ça. Donc c'est quelqu'un qui est toujours dans la dimension de la pensée et dans la dimension du corps.
Alors, par contre, Pasolini a utilisé tous les angles possibles de la création artistique, pratiquement.
Et oui.
Peut-être en dehors de la peinture, quoi qu'il ait écrit d'art.
Ah oui, et puis il y avait une exposition à Paris d'ailleurs de son maître Longhi qui l'avait formé en critique d'art, qui était très belle parce qu'on voyait dans les peintures que lui avait enseigné des visages qui allaient venir dans le cinéma de Pasolini après, des visages ancestraux. Il y a cette Italie éternelle effectivement qu'on pourrait confondre avec un conservatisme. À mon avis, c'est pas un conservatisme, c'est l'âme du peuple pour lui. C'est une façon d'être fidèle à l'âme du peuple.
Qu'on peut retrouver dans les peintures de la Renaissance.
Ah oui, complètement. Bah, dans cette exposition, c'était au musée Jacques Marandré à Paris que j'avais vu ça. Exposition Longhi, Roberto Longhi, et on voyait tout le trajet.
Son maître, d'ailleurs.
Il
a étudié sous.
Complètement. Et toute cette dimension, disons, caravagesque, hein, parce que c'est ça, hein, y compris dans la relation sexuelle aux mineurs, etc. Il a essayé aussi de la transmettre dans son cinéma. Et c'est pour ça que c'était aussi des acteurs amateurs, aussi dans la trilogie de la vie. C'était un des premiers à aller tourner en Afrique pour les Mille et une Nuits avec des figurants sur place, pas des figurants, voilà. Donc, c'était quelqu'un qui était complètement hors norme, hein, dans tous les sens du mot, et y compris dans les normes homosexuelles. Il aimait les mineurs, il disait toujours que pour lui,
Il aimait les jeunes hommes, on va dire les jeunes adultes, c'était pas...
Ah bah, le dernier, 14, le jour de son assassinat, ans, c'est 14-15 ans.
17
hein.
ans, non.
C'est pas...
en tout cas, c'était des mineurs.
Enfin, après, moi, j'ai pas étudié l'âge de chacun des amants de Pasolini, trop long.
C'était quand même pas des jeunes, c'était pas des garçonnets, je veux dire. C'était quand même des.
Oui.
Ils avaient des caractères masculins déjà.
Il y a eu de tout.
Voilà.
paix à son corps, mais il y a eu de tout. Mais par contre, c'était quelqu'un, par exemple, qui défendait l'idée dans les écrits corsaires. Par exemple, on retrouve beaucoup ça. Il chronique un livre sur l'homosexualité qui donne à l'époque une vision de l'homosexualité qui pour lui était très normative. Il dit mais moi je connais pas d'homosexuel qui soit amoureux d'homosexuel. Je connais des homosexuels qui sont amoureux des hommes qui sont capables d'homosexualité, mais ils sont amoureux d'une image masculine. Ils sont pas amoureux d'une sexualité. Et là aussi il était complètement réfractaire à l'idée d'une identité sexuelle, d'une identité politique, comme d'une identité religieuse.
Pour revenir donc à tous les modes de création finalement, Pasolini on a dit qu'il avait touché à tout. Mmh. On a entendu hein, qu'il était cinéaste. Il est d'ailleurs connu beaucoup en France. Il a d'abord été beaucoup connu comme cinéaste.
Ouais,
hein.
Ouais.
Mais il est considéré comme un très grand poète.
Ah oui. Ah oui, oui,
un des plus grands poètes du XXe siècle. Même.
Ah oui, oui, oui. Bah, il est. C'est. Alors pour le coup, c'est la figure d'un artiste qui dépasse les genres. C'est-à-dire, il a utilisé. Tu parlais du Frioul au début. Les poèmes de jeunesse de Pasolini, c'est absolument magnifique. Hein. Comme ses derniers poèmes en prose, Les Anges distraits, c'est très très beau. Par contre, ce qui est très intéressant, moi j'avais beaucoup travaillé là-dessus, c'est qu'il est venu au cinéma quand il avait l'impression d'avoir épuisé la question du réel en littérature. En fait, il est toujours à la frontière. Donc là, c'est la frontière entre le réel et le réel. En fait, il est venu au cinéma en se sentant limité à l'intérieur de la poésie, ce qui n'empêchera pas de retourner à la littérature avec Pétrole à la fin, quand il se sentira à nouveau limité par le cinéma. Mais il utilise en fait ces arts traditionnels dans un but qui est plus grand, qui poursuit autre chose d'impossible d'une certaine façon. Mais c'est ça qui est, moi je trouve que ces films sont absolument un chef-d'œuvre. Son théâtre est plus compliqué, mais il est très intéressant parce que justement il est très à part. En fait, c'est sa poésie, son théâtre et ses films sont d'une certaine façon très différents. Moi, je considère vraiment, alors j'aime pas tous ces films, mais même ces rattaches sont magnifiques. Parce que les rattaches, maintenant, il y a des choses irregardables, mais qui valent, que personne n'a tenté, quoi. Mais par contre, il y a des chefs-d'œuvre absolus. Enfin, je veux dire, un film comme Mama Roma, c'est absolument sublime. Notamment, alors, ce que je disais, il refusait l'identité homosexuelle, par exemple, mais évidemment, c'est quelqu'un qui place l'homosexualité là où elle ne doit pas être. Et Mama Roma, il n'y a pas du tout d'intrigue homosexuelle dedans. Hein. Il y a des ragazzi, il y a Anna Magnani en vieille pute magnifique avec son fils, etc. Et mais vous voyez comment ils filment les ragazzi dans Mama Roma, mais ça pue le désir. Enfin, je veux dire, il y a de l'homosexualité partout.
Ouais.
Mais elle est dans le regard, dans la mise en scène.
Alors, justement, on parle des ragazzi, il faut rappeler aussi que Pasolini a été un romancier. Et son premier roman, paru en 1955, s'appelait donc Ragazzi di Vita, qui était donc sur ces jeunes de banlieue.
Bah oui, toujours.
Qui étaient des jeunes qui venaient, des familles qui venaient souvent du Mezzogiorno italien ou de régions très reculées, qui venaient trouver du travail à Rome. Et qui vivaient dans ce qu'on appelait les borgate. Et à l'époque, c'est des quartiers en formation autour de Rome qui correspondraient un peu à nos banlieues actuelles, finalement,
ouais,
avec une physionomie, une typologie sociale un peu semblable à celle que nous rencontrons maintenant dans nos banlieues. Et lui, il était fasciné par les ragazzi di Vita. Il a écrit un roman complet là-dessus. Un livre qui a fait scandale aussi, je crois, en Italie.
Tout scandale.
Voilà. Ce n'est pas la peine
de toute façon.
Dire, voilà. Ça a été son premier roman. Il a écrit Una Vita Violenta. Il a écrit des romans, il a écrit des poésies. On reviendra sur le théâtre parce que c'est très intéressant. Et c'est peut-être la partie la moins connue en France, en tout cas.
C'est aussi la plus difficile à aborder, mais c'est intéressant.
Et donc, le cinéma. Alors, le cinéma, évidemment, était à Rome. À Rome, je l'ai dit, hein, il a rencontré des cinéastes comme Bernardo Bertolucci, en tout cas son père d'abord. Il a rencontré Fellini.
Bah oui, il était scénariste pour Fellini au départ.
Tous les gens en I, tu sais.
Oui. En Italie, c'est facile.
Et en fait, puis il y avait Cinecittà. Et lui, Cinecittà, il allait traîner dans les studios. Il a même fait de la figuration. Puis petit à petit, il s'est fait connaître parce qu'il connaissait rien au cinéma. Il est venu tout à fait en dilettante. Après, il a commencé à co-réaliser, à co-écrire ou à corriger des scénarios pour Cinecittà, etc. Jusqu'au jour où il a décidé de se lancer. Alors, j'ai vu qu'il avait participé à des films de Fellini comme La Dolce Vita, par exemple.
Les Nuits de Cabiria.
Les Nuits de Cabiria.
Les scénaristes des Nuits de Cabiria.
Voilà.
Mais ce qui est étonnant, c'est que.
Et puis après, il s'est lancé, quoi. Donc, il y a eu Acatone, et ça a été son premier film.
Qui est très beau, Ce qui est étonnant, c'est qu'il est venu au ciné. On pourrait imaginer, après être passé par Fellini, qui était quand même un monstre génial, quoi. Son cinéma est complètement à rebours. Alors que les deux ont parlé du désir, mais Fellini est un cinéma vraiment fantasmatique. Pasolini, en tout cas au départ, après avec la trilogie de la vie que j'adore, ça se mélange, mais au départ, il vient au cinéma pour aborder la question du réel qui, pour lui, n'a plus lieu d'être dans la littérature. Voilà. Donc quand il fait Acatone, quand il fait Mama Roma, au départ, c'est vraiment pour filmer le réel. Après, il y a toujours cette dimension spirituelle de Pasolini, qui est déjà d'ailleurs dans un Roma, hein, dans la fin, il y a déjà une dimension très religieuse, qui fait que on retourne très vite dans une forme d'ambivalence. C'est-à-dire, par exemple, dans la trilogie de la vie, il fait rentrer tout ce réel dont tu parlais, le bon sens paysan, les gens du peuple.
Alors, la trilogie de la vie, on rappelle, c'est le Décaméron.
Le Décaméron, les Contes de Canterbury et les Mille et une nuits.
Chacun y a été tourné. Les Contes de Canterbury, je crois, ont été tournés en Grande-Bretagne, par exemple.
Oui, oui, oui.
C'est des récits médiévaux de l'époque médiévale du 15e siècle.
Oui, oui, oui. Bah, et les autres encore
plus. Décaméron, c'est Boccace.
Voilà. Boccaccio. Et les autres, c'est les Mille et une nuits.
Mille et une nuits, voilà. Et donc, c'était des trilogies, une trilogie médiévale, finalement. Hein, on peut
oui,
dire,
oui. C'était une trilogie du plaisir.
Et à chaque fois, il a voyagé. Parce qu'on oublie aussi que Pasolini était un grand voyageur. Il aimait voyager. Il a été, comme tu disais, pour les Mille et une nuits au Yémen, en Irak.
Ah, complètement. En prenant, pour les protagonistes, des gens de ces pays. Volontairement. Donc, il y avait une façon de faire entrer le réel, là, pour le coup, c'est-à-dire les corps. Des gens de ces pays-là qu'on voyait pas du tout dans le cinéma italien, hein.
Alors,
mais en jouant quand même sur le côté surréel du cinéma. C'est pour ça qu'il était toujours dans l'ambiguïté, parce qu'en fait le cinéma italien à cette époque-là ne tourne pas en son direct, toujours doublé en post-synchronisé. Ouais. Et donc c'est très marrant de voir ces films-là.
Ça donne une profondeur
en italien parce que c'est complètement factice.
Mm.
Et en même temps, il y a cet effet de réel qui est lié au corps.
Ouais. Par contre, le cinéma de Pasolini est très visuel. Je veux dire, le dialogue est quand même beaucoup moins... Après, c'est rattrapé avec le théâtre, on dira.
Oui, enfin,
c'est là où il a beaucoup écrit. Le théâtre de le cinéma de Pasolini est très visuel. Ça.
Ah, oui,
c'est
oui,
des
oui.
tableaux, en fait, on peut le dire.
Beaucoup, oui, 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 oui. Même, alors, tout ce dont on vient de parler, la trilogie de la vie, oui. Et même, disons, son cinéma plus expérimental, c'est-à-dire... Oedipe Roy un peu, Médée, Porcherie, qui est plus proche de son théâtre, c'est-à-dire plus abstrait, reste très très visuel. Hein. Il a un sens de l'icône. Dans Médée, il prend Maria Callas.
Alors,
dans Decameron, c'est Silvana Mangano. Enfin,
c'est
toujours très iconique.
C'est intéressant parce qu'il a fait tourner beaucoup de femmes célèbres.
Ah bah oui.
Voilà.
Il n'aimait pas sa mère pour rien.
Voilà, Maria Callas, Silvana Mangano, effectivement. Il n'y avait pas que des inconnus dans ses films. Il y a eu aussi de grandes actrices italiennes qui ont joué dans ses films. Et aussi Maria Callas dans Médée. On en reparlera un petit peu. Moi, je voudrais qu'on écoute justement une de ses grandes amies qui était une artiste,
la folle.
Laura Betti.
Comment l'appelait ?
Voilà. Laura Betti, qui était actrice, voilà, je vais y arriver, qui a tourné dans des films de.
Bah, dans Théorème.
Dans Théorème. Et qui, on va l'écouter justement, Laura Betti, de nous parler de Pasolini, parce qu'elle a eu un rapport très très proche avec Pasolini.
Pourquoi est-ce que dans la plupart des pages de ce livre, quand vous parlez de Pasolini, vous n'écrivez pas son nom, vous dites simplement lui ?
Parce que là aussi, c'était ma façon de... peut-être de ne le quitter jamais, d'en parler avec lui de ses livres. Et surtout parce que... Lui, il a toujours été... au-delà de tout. Il n'a jamais fait partie de la littérature, de ceci, de cela. Il a toujours été autre chose. Il a même été autre chose en tant qu'homosexuel. Il a toujours été autre chose. Il a toujours... ce n'était pas question de solitude, c'était question de... d'avoir le sentiment d'un engagement si fort que il n'était jamais là. Disons, la littérature était arrivée là, mais lui n'y était pas parce qu'il était déjà là. Et c'était toujours comme ça. Alors la littérature a avancé pour le suivre, mais il était déjà là. Il était insaisissable un peu, si l'on veut. Et inviolable. C'était un roi, quelque part. Mais on l'a violé.
pluriel gay.
Laura Betti, qui était donc... c'était un amour, pratiquement.
Ah oui, 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 c'était... Oui, c'est une relation fusionnelle, voilà, hyper possessive posé, aussi, voilà, du côté de Laura Betti.
On
leur a
souvent
dit, vous avez
consommé déjà, et apparemment non, mais non, c'était au-delà de ces contingences-là. C'était...
J'y étais pas, mais je pense pas. mais par contre, c'est... Oui, oui, c'est une relation vraiment fusionnelle, fondamentale. Après... Dans la postérité, il y a beaucoup de gens qui ont contesté la possessivité de Laura Betti à la mort de Pasolini. Bon, ça c'est autre chose. Hein. Ça, c'est, on va pas. Moi, je ne m'immisce pas dans leur relation. Mais en revanche, c'est quelqu'un qui a été fondamental. C'est très beau ce qu'elle dit. Je trouve que c'est très très juste. Ça définit très bien Pasolini. Et c'est quelqu'un qui a été en revanche très importante sur la contre-enquête liée au meurtre de Pasolini. C'est elle qui a déclenché. Les contre-enquêtes, notamment, il y avait un livre de collectif dirigé par Félix Guattari qui a très très bien montré comment le meurtre de Pasolini avait eu lieu, comment il avait été forcément commandité, même si on n'a jamais trouvé qui l'avait commandité. C'est d'ailleurs très bien montré à la fin du film de d'Abel Ferrara, qui était sorti il y a bientôt un an, qui sort peut-être en DVD d'ailleurs, qui est un portrait de la dernière journée de Pasolini et qui filme le meurtre à la fin. Alors il n'aborde pas explicitement la question du commanditaire, mais on voit que c'était pas seulement un règlement de compte de prostituées autour de Pasolini, mais que ça pouvait être beaucoup plus loin. Et c'est à Laura Betti qu'on doit ça, qu'on doit d'avoir lancé et financé, hein, surtout les investigations pour qu'on élucide mieux. Et quand on lit, par exemple, le rapport d'autopsie sur la mort de Pasolini, c'est un truc, mais d'une violence inouïe. Je veux dire, c'est sur une centaine de mètres, le cœur éclaté, on lui roule dessus après, il a des coups de batte de baseball, il s'éponge avec son t-shirt, avec tout ça. Quand on connaît la force de Pasolini, qui était quand même un sportif, et pas seulement avec le football, hein, qui était vraiment quelqu'un de tenace, de très solide, on peut pas imaginer que ce soit deux ou trois gamins prostitués de 16-17 ans qui aient commis une violence pareille. Je veux dire, c'est évident que non.
Mais on reviendra sur cet événement quoi tragique de la fin de Pasolini. Pour revenir aux deux grandes figures féminines dans le cinéma de Pasolini dans sa vie intime, on a parlé donc aussi de Maria Callas. Donc Maria Callas qui a joué dans Médée. Alors Pasolini aimait Maria Callas parce que elle incarnait pour lui, comme elle était grecque en plus, la tragédie à l'antique,
ah bah
la
tragédie grecque. Et puis la tragédie féminine, il aimait beaucoup.
Voilà. Et qu'il a exploré donc dans Médée, Oedipe Roy par exemple.
Ah ouais.
C'est pour ça qu'on Oedipe Roy, pour ça qu'on a parlé de Freud aussi.
Ah bah.
Mais aussi il y a Théorème qui est un chef-d'œuvre. Hein.
Ah oui, oui, bah, y a beaucoup de...
Théorème, c'est la dénonciation de la société bourgeoise.
Oui, oui, puis c'est un très beau jeune homme qui arrive dans une maison et qui séduit tout le monde. Qui est un truc...
De la bonne jusqu'au mari.
Qui est un truc, c'est certainement le pitch le plus repris depuis de l'histoire du cinéma. Hein. D'une façon ou d'une autre, des Théorèmes, il y en a plein.
Et qui bouleverse les... Oui,
alors évidemment, lié à la religion à l'époque, c'était quand même... voilà. Mais disons qu'il avait une conception de la sexualité très chrétienne, on va dire.
Alors, il y a tout de même un film qu'on a évité. Non, on n'a pas évité. Il faut en parler.
Il y en a plein. Hein. Ah bah,
il y en a beaucoup. Mais
le dernier.
Il faut en parler du dernier.
Ah oui,
parce que le film, le dernier, je ne sais pas si tu as vu Salo ou les 120 jours de Sodome.
Non.
C'est le seul film. Il m'a fallu un mois pour m'en remettre après l'avoir vu.
Ah oui, moi, c'est
le seul film.
Moi, c'est le seul film de Pasolini que j'ai jamais revu encore.
Ah mais moi je le reverrai jamais.
C'est assez...
Quand il est sorti, beaucoup de gens sortaient des salles d'ailleurs. Hein. Il restait
je pense
minutes,
même encore maintenant.
Un quart d'heure. Il a été interdit en Italie par
censure.
Oui,
oui. Non, non, c'est un film... Bah, c'est un film qui met en acte ce dont on parlait, c'est-à-dire le fascisme de la société de consommation.
Ouais.
Il met en miroir et en acte le fascisme de la société dans laquelle est né Pasolini avec le fascisme que pour lui construit la société de consommation. Alors évidemment, ça donne des scènes. C'est pas tel. Aujourd'hui, je pense que c'est pas tellement la sexualité plus ou moins crue, parce que pour aujourd'hui, on a largement passé le cap.
Ouais.
Par contre, c'est l'emprise fasciste sur les êtres humains qui est montrée, mais alors avec un.
Alors en même temps, on dit que c'est une transposition des écrits de Sade à l'époque.
Oui, il a beaucoup. Bah c'est clair, il a étudié Sade avant, il a beaucoup travaillé sur Sade.
À quelque part, n'y a-t-il pas dans ce film, qui est un film posthume, il faut le savoir, parce que lui ne l'a jamais vu en salle finalement, il est mort avant. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce film aussi...
C'est aussi parce que Salo devait sortir qu'il a peut-être été assassiné. Hein.
Mais est-ce que pour lui, ce n'était pas l'exploration de ses propres fantasmes les plus secrets quand même?
Ah,
alors... Parce que dans ce film, on y parle de scatologie.
Mais mon pauvre Gérard, moi je ne suis pas allé jusque-là dans l'âme de Pasolini.
Non, mais peut-être, dire, ça arrive oui. On arrive à un point où... moi j'ai trouvé ça, c'est un avis tout à fait personnel, que des scènes de scatologie ou de torture, par exemple, sont parfois décrites avec une certaine complaisance.
Oui. Enfin,
plaisir presque sadique, je dirais, de la part même de Pasolini.
De Pasolini ? Ah, je sais pas. Après...
Moi, je l'ai vécu un petit peu comme ça.
Pour être... Oui...
Je me dis, est-ce que ça sert vraiment le propos d'aller aussi loin ? Parce que ça va quand même très loin. Et quand tu dis que, par exemple, on pourrait le revoir d'un autre œil, peut-être, parce que les choses ont changé, moi, je pense pas. Enfin, moi, pour...
Mais si de
pour
ce lui... point de vue-là, non. Non, non, je parlais sur la sexualité, la façon de montrer la sexualité de façon explicite.
Les scènes de torture, scènes du mariage...
Ça, c'est atroce.
C'est épouvantable.
Ça, c'est
les gens sont réduits à un niveau d'abomination.
Pour lui, c'était pour montrer vraiment la haine qu'il avait de la surconsommation. Il est peut-être allé jusqu'au
bout. Par contre, alors je vais prendre la défense de...
Moi, ce qui me gêne, c'est qu'à l'intérieur, on a l'impression qu'il a exprimé aussi certains de ses propres fantasmes.
Alors, puisque je suis là pour ça, je vais prendre la défense de Pier Paolo. Je pense que le film est d'autant plus horrible qu'en fait, il est mis en scène dans une certaine neutralité. Moi, ce que je trouve abominable dans Salo, c'est la déshumanisation dont ça rencontre. Donc de ce point de vue-là, pardonne-moi, je vais aller contre ton avis.
Moi, c'est
mais je pense pas.
C'est ce qui m'a mis mal à l'aise.
Si tu dis aujourd'hui à des gens qui n'ont pas vu Salo, il y a des scènes de torture abominables, etc. C'est vrai. Mais je pense qu'aujourd'hui, on le filmerait avec une certaine empathie. On le filmerait en caméra à l'épaule, avec des cris. Mmh. L'horreur de Salo, c'est vrai dans ce que tu décris, c'est dans le film. Mais ça n'est pas décrit avec une espèce d'hystérie. Comme on pourrait l'imaginer dans le sens de l'horreur au premier degré. Ce qui est abominable dans Salo, c'est que c'est décrit avec la neutralité d'une société organisée. Il y a tout ce que tu dis, hein, c'est évidemment ça qui est épouvantable, et ça, à mon avis, ça reste tout aussi prégnant aujourd'hui, contrairement à ce que je disais sur la représentation de la sexualité seule. Mais par contre, moi, ce que je trouvais abominable chez Salo, c'est la façon d'arriver à toucher le début de la déshumanisation des corps et de l'exploitation des corps.
Et l'abjection absolue de ce que peut provoquer la race humaine, finalement.
Parce qu'on oui, est dans mais l'abjection, absolue, encore une fois, elle est dans l'organisation d'une société.
Alors, ce qui est intéressant dans Salo et les 120 jours de Sodome, c'est que c'est le film le plus cinématographique quand même de Pasolini. Je sais pas ce que t'en penses. Il y a moi je trouve. Hein,
bah alors ça dépend.
Le point de vue de la caméra.
D'amour cinématographique, je peux pas parce que ça filme tellement.
Non
retournant.
Mais je veux dire au niveau technique, c'est le film qui se rapproche le plus de ce que le cinéma italien pouvait produire à l'époque.
Alors c'est un film le plus classique.
Voilà.
Mais je pense que c'est pour la raison
d'accord.
Oui, mais je pense que c'est pour la raison que je viens de donner d'ailleurs, parce que son cinéma n'est pas du tout classique. Comme tu le disais, il est très iconique.
Mais c'est le seul Salo où il y a vraiment ces contre-champs.
À mon avis, c'est vraiment pour cette raison-là. Voilà. C'est pour avoir un cadre lié à la neutralité de cette société qui veut dénoncer.
C'est du cinéma italien de l'époque.
C'est complètement très organisé, mais à cause de ça, ce qui est pas du tout le cas ni de la période de trilogie de la vie, ni de la période abstraite Porcherie Médée, ni de la période néo-réaliste, pour aller vite, de Acatone et Mama Romain.
Mais c'est vrai que Pasolini, dans son cinéma en tout cas, ne peut pas être classé, on va dire. On parlait de Fellini tout à l'heure, on peut parler de Visconti aussi, on peut parler d'Antonioni, tous ont une marque de fabrique.
Oui.
Un film de Fellini, ça reste un film
Fellini.
Un film de Visconti, Visconti dans tous ses films. Que Pasolini, effectivement, chaque œuvre est complètement indépendante.
Médée n'a absolument rien à voir avec Acatone. Bon, Salo est de toute façon à part. Et la trilogie de la vie, c'est un truc... Moi, je pense que le premier film que j'ai dû voir, c'était à la télé, c'était Les Contes de Canterbury, et je voyais des moines chier des culs immenses dans la scène de l'enfer à la fin. Je me disais, mais comment on peut faire un truc... Bon, je connaissais ni Jérôme Bosch ni rien, hein, je me disais, mais comment on peut faire un truc pareil? Mais je suis d'accord avec ce que tu disais sur l'aspect cinématographique classique de Salo. Moi, ça peut évidemment pas être mon film préféré, même cinématographiquement, parce que moi, j'aime la santé de Pasolini. On l'a pas assez insisté, je trouve, dessus. Son côté terrien, aimer le football, c'est aussi, je veux dire, son amour absolu, son acteur fétiche, c'était Ninetto d'Avoli, qui représentait l'insouciance, l'humour, la légèreté, le
plaisir.
Et qui
plaisir. Lui est resté fidèle au-delà de sa mort.
Ah ben complètement,
maintenant.
Et qui joue d'ailleurs dans le film de Ferrara, dans le projet que Pasolini n'a pas eu le temps de tourner, il le tourne avec Ferrara, en fait, comme un rêve, justement. Mais chez Pasolini, il y a cet amour profond, vraiment pour la légèreté, pour le plaisir. Moi, j'adore pour ça Les Mille et Une Nuits, où il y a à la fois toute la gravité, la dimension spirituelle, et attend son sens du plaisir, qui est quand même... qui existe aussi. Après, tu as tout à fait raison, parce qu'on en revient toujours à la même chose, il est très ambivalent. Il a aussi un sens tragique, et certainement qu'on peut voir dans Salo une fascination peut-être coupable, je sais pas, oui. De la même façon que dans les contes de Canterbury, il y a une scène très troublante, hein, où il y a une scène d'assassinat à trois à la suite d'amour masculine, qui quand même est presque prémonitoire sans le vouloir, quoi. C'est... Alors évidemment, il avait une dimension tragique. Alors jusqu'à quel point il s'identifiait à cette dimension tragique dans chacun de ses films, y compris Salo, ça c'est tout à fait possible. Mais alors moi, j'aime Pasolini de tout mon cœur, mais je renonce à l'identifier à un endroit. Il n'était jamais là où on voulait qu'il soit.
En cinéma, finalement, il avait quand même une petite troupe à lui, Laura Betti, Ninetto Davoli.
Bon, Ninetto Davoli, c'est vraiment Davoli, celui qui a le plus vraiment.
Ninetto Davoli, on ne sait pas s'il était vraiment amant ou pas, en fait, c'est difficile à dire. Encore une fois, nous n'y étions pas.
On sait que Ninetto Davoli, c'est un papa avec des enfants charmants aujourd'hui, ça c'est certain. Après, Pasolini courait pas après les homosexuels, hein, ça se saurait. Après, moi, en tout cas, c'est une histoire d'amour. C'est exactement comme avec Laura Betty, hein. C'est peut-être pas consommé, mais c'est une histoire d'amour. Et c'est surtout un rêve de Pasolini. Pasolini était un grand érudit qui a toujours détesté l'intelligentsia, qui a toujours détesté... Il y a des très belles pages que je relisais là en venant sur les écrits corsés, où il explique ce qui fait le peuple d'une nation. Et il dit, c'est pas l'intelligentsia, c'est pas la culture populaire, c'est pas les classes moyennes, c'est le mélange de ça. Et chez Pasolini, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est inclassable, il y a toujours eu une détestation de l'identité et un amour de l'altérité. Et donc il est toujours... y compris contre ses propres idées, là où il se remet toujours en question.
Ce qui est intéressant de noter, c'est que Pasolini, comme on le disait, malgré sa mort qui l'a rendu un petit peu, qui en a fait de lui un martyr, en fait, était un homme qui aimait la vie.
Mais complètement, voilà. C'est pour alors, ça, moi j'insiste pas, beaucoup,
on a vu
qu'il aimait énormément le sexe. Hein,
voilà, il n'était pas aimé de tout le monde, par contre, c'est sûr, même en tant que critique, d'ailleurs, ce qu'il faisait des critiques dans les journaux littéraires.
C'est bien ça qui les dérangeait. Voilà. Et alors, il mélangeait tout dans ses critiques, c'était ça aussi qui les dérangeait.
Malheureusement, comme l'heure tourne, on va évoquer brièvement le théâtre de Pasolini, qui est peut-être la partie la moins connue de l'œuvre de Pasolini, notamment en France. Pasolini a écrit un théâtre qui, disait-on, n'était pas fait pour être joué, mais être lu. C'était un théâtre poétique, disait-on.
Oui, c'était un théâtre poétique. Alors en même temps, il y a Gilles Pastor, qui est un metteur en scène de la région, qui l'an dernier au TNP a donné une très belle version, moi j'ai trouvé ça admirable, parce que il faut se le coltiner, d'un texte très beau qui s'appelle Affabulazione.
C'est très difficile de mettre en scène.
Et c'était d'ailleurs Jeanne Moreau qui faisait la voix de l'oracle. Parce que il y a dans le théâtre de Pasolini
votre amie Jeanne.
C'est votre amie.
Dès qu'il entend Jeanne Moreau, ça le fait
rire. Je savais pas. Voilà. Alors là, c'est vraiment. Ah bah oui, bah là tu là, on l'entendait très bien.
Genève, Fassbinder, Pasolini.
Oui, c'était une Laura Betty à sa façon. Mais oui, il y a cette dimension sacrée, linguistique aussi, qui fait que c'est un théâtre injouable. Mais Gilles Pastor l'avait très bien monté.
Il l'avait monté au TNP, c'est ça ?
Oui. Son théâtre pose souvent des questions politiques et conceptuelles. Et par exemple, Affabulazione, c'est un Oedipe inversé. Et d'ailleurs, c'est là aussi, on peut dire que c'est encore une pièce d'une actualité. C'est plus le fils qui veut tuer le père, mais c'est les pères qui tuent leur fils en leur transmettant une société où précisément qui n'a plus de transmission possible. Aussi à cause, toujours la même chose, de la société de consommation, etc. Et le moins qu'on puisse dire, c'est quand même aujourd'hui, on baigne complètement là-dedans. C'est-à-dire où on transmet au fils une société qui est pas forcément meilleure que celle qu'ils avaient connue. Mais par contre, c'est un théâtre qui, dans la forme, est effectivement très, très langagière, très sacralisé, beaucoup en rapport à la tragédie antique dont tu parlais, hein, il n'a pas quitté cette dimension-là, donc qui est à peu près injouable, mais il y a des gens comme Stanislas Nordet ou Arnaud Meunier à Saint-Étienne, hein, qui ont monté beaucoup Pasolini, et très bien. Maintenant, on peut, je pense, plus facilement monter son théâtre, parce qu'on a le bagage, notamment cinématographique, visuel, dont tu parlais, de Pasolini, qui sert quand même, Gilles Pastor a beaucoup monté à fabulationner comme ça. Il a pas du, si on monte Pasolini comme du théâtre classique, déclamé, joué,
oui, mais en plus, il n'y avait pas d'indication de la part de Pasolini sur les décors, sur les costumes.
Par contre, quand on connaît un peu son trajet, spirituel, intellectuel, politique, et le monde visuel de son cinéma, je pense qu'on arrive à créer un monde scénographique dans lequel la parole de Pasolini peut exister.
La Pasolini, par rapport au cinéma, comme on le disait, le théâtre, ça a été la façon... Il a écrit énormément, quoi, parce que le cinéma, c'est très visuel. Là, il a
Contrairement à son cinéma, d'ailleurs, son théâtre est très théorisé. Donc, c'est vraiment l'endroit... c'est vraiment son ancrage abstrait et théorique, son théâtre. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne résonne pas d'autre chose. Hein, je disais la façon dont les pères tuent leurs fils dans la société d'aujourd'hui, ça a une résonance politique. Mais disons que en termes de forme esthétique, c'est vraiment l'endroit où il a le plus théorisé, ce qui était rare, avec Pétrole.
Alors, le Pétrole, donc, qui est un roman considéré comme posthume aussi. La nuit du 1er au 2 novembre 1975, donc, Pasolini se rend sur une plage à Ostie, à une vingtaine de kilomètres de Rome, pour rencontrer apparemment Giuseppe Pellosi, qui est un prostitué.
Alors, il le rencontre un peu avant.
Mais il le connaissait déjà.
C'est Giuseppe qui l'emmène sur la plage d'Ostie.
D'accord, il se connaissait.
En lui disant qu'il a rendez-vous, et c'est là où c'est tapant, en fait.
Tu as décrit la mort atroce de Pasolini sur cette plage, où il a été littéralement réduit en bouillie,
En fait, il a été appâté.
Dans une tentative d'annihilation complète de sa personne, quoi, en fait. On voulait l'effacer.
C'était épouvantable.
C'est un acharnement, là.
Mais un acharnement, alors, vraiment.
Cette mort, ça reste un mystère. Parce que tout le monde a dit, alors Giuseppe Pellosi, il faut savoir, le jeune prostitué qui était mineur à l'époque des faits, donc était jugé, il a reconnu les faits.
Oui.
Il a dit, c'est moi qui l'ai tué, c'est vrai. Il a eu 9 mois de prison, 9 années de prison, parce qu'à l'époque, en Italie, c'était maximum pour un mineur. Quand il est ressorti de prison plus tard, il a donné de nombreuses interviews un peu partout en disant, oui, mais vous savez, j'ai dû dire ça parce que, en fait, je voulais protéger ma famille, mais je n'étais pas tout seul. Et comme tu le disais, effectivement, sur la plage de Steve, visiblement, il n'a pas été tout seul. C'était impossible qu'un garçon...
Il l'a dit bien des années plus tard. Il ne l'a pas dit tout de suite en sortant de prison.
La dernière fois, il l'a dit en 2005 à la télévision italienne en disant
que... De toute façon, c'est d'ailleurs bien pour ça que Laura Betti avait déclenché des investigations à l'époque. C'est quand vous lisez le rapport de l'autopsie, le dossier criminel de l'assassinat de Pasolini et les déclarations du jeune Giuseppe... C'est absolument impossible que Giuseppe Pellosi, avec ses petites épaules, ait fait ce qu'on a fait à Pasolini sur 110 mètres. C'est vraiment absolument impossible. Même à 3 gamins, c'est impossible. Donc, Giuseppe Pellosi, je pense que ça a été un appât, surtout. Je pense qu'il savait que Pasolini allait souvent voir les petites putes romaines masculines, voilà, et que donc ils ont acheté quelqu'un. C'est aussi simple comme ça, que ça. Et donc, ils ont eu une relation sexuelle avant, ils ont mangé ensemble, et il lui a dit, mais j'ai rendez-vous, voilà, il a prétexté d'un rendez-vous où il l'a emmené, et Pasolini est allé sur le rendez-vous, et c'était un guet-apens. Alors après, la mort de Pasolini reste mystérieuse, oui et non, je suis toujours, on ne sait pas qui a commandité.
On a tout dit sur cette mort.
Je trouve toujours très embêtant quand on dit pas que c'est on est sûr que c'est un assassinat commandité. Ça, c'est certain. On ne sait pas qui, on ne le saura peut-être pas jamais nommément. Mais je veux dire, on ne peut pas dire, c'est peut-être un règlement de compte de voyous romains. Ça, c'est sûr que non.
Il faut rappeler qu'à l'époque, l'Italie, c'est ce qu'on appelait les années de plomb en Italie. C'est-à-dire entre les années 60 et 80, la fin des années 80, il y a eu beaucoup d'attentats terroristes à l'époque qui ont été en partie perpétrés par l'extrême droite, sous couvert de, parfois déguisés en attentats d'extrême gauche pour déstabiliser un petit peu le gouvernement italien, pour empêcher... pour empêcher en fait que les communistes souvent arrivent au pouvoir, etc. On dit même les États-Unis auraient envoyé la CIA et commandité eux-mêmes certains. Alors on a tout dit que c'est la CIA
mais
qui
avait
pu assassiner.
Mais
on a,
je pense qu'on dit tout ça parce qu'on ne
que
veut
que la mafia aussi était là-dedans. S'il avait dénoncé la collusion de la démocratie chrétienne avec la mafia. Enfin,
Mais parce qu'on ne veut pas voir ce que je disais au début.
À l'époque,
c'est très bien pour vous.
Excuse-moi. À l'époque, les attentats en Italie, c'est pas à prendre à la légère. Ça fait en 20 ans, ça fait pratiquement autant de morts que ce que on a eu le 13 novembre sur une période beaucoup plus longue. Des bombes qui étaient posées un peu partout en
Italie. Mais ça c'est très vrai, ça existait, mais les gens qui posaient les bombes, ils achetaient pas un petit prostitué pour aller faire une pipe à Pasolini et l'emmener sur la plage d'Ostie se faire défoncer avec une batte de baseball et se faire rouler dessus et le cœur éclaté.
C'est vrai qu'on a tout dit sur sa mort.
Donc ce que moi
on sait toujours pas et le procès n'a jamais été réouvert.
J'insiste, ce que je disais au début, c'est que c'est très rare un assassinat comme ça d'une figure artistique dans un pays dit civilisé, et Dieu sait que j'adore l'Italie, hein, je pourrais dire pareil sur la France, ce serait exactement pareil, on a les mêmes ambiguïtés, mais je veux dire, il a été tué pour ce qu'il était, pour ce qu'il pensait et ce qu'il représentait, et il a été tué par la société bourgeoise fascisante italienne, ça c'est incontestable, faut pas l'oublier. Bien sûr qu'il y aura toujours un mystère sur qui vraiment a commandité ça, mais ça c'est une certitude, ça n'est pas on peut aller chercher la CIA les années de plomb, je sais pas quoi, quand on ne veut pas voir ça. Mais c'est ça qui a tué Pasolini, et c'est la force de sa pensée, de sa façon d'être, qui dérangeait la société, qui l'a tué.
Bah écoute, merci Luc, en tout cas d'être venu.
Bah,
nous allons devoir
plaisir, c'est très bien de parler de Pasolini.
Voilà, c'est bien. On en reparlera l'année prochaine, puisque
avec plaisir.
Dans le cadre aussi de Grand Mixte,
oui,
Grand Mixte,
il y aura une grande expo à la bibliothèque de Lyon.
Voilà, à la bibliothèque municipale de Lyon. Merci Luc d'être venu. Je savais qu'en t'invitant, j'avais invité la bonne personne.
Merci à vous d'avoir parlé de Pasolini.
Et on n'en reparlera jamais assez.
L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.